Bonjour et bienvenue à tous sur Gameblog, bien sûr, comme toutes les semaines, ici au Parc des Princes. Non, pas du tout. En fait, on est tous confinés, chacun dans un coin de chez lui. Je vois Romain qui est avec nous. Ça va, Romain?
Ça va, moi je suis confiné à Tokyo.
On t'entend bien, ouais, effectivement, tu as un décor un peu zarbe derrière, tout en bouillie, mais ça va. Enfin, moi je te vois en bouillie, hein. Peut-être que en fait, c'est en 8K, mais.
Normalement, le screenshot est de bonne qualité. Donc,
d'accord, ouais. Mais bon, c'est peut-être la perception depuis le bureau qui fait ça. Thomas est avec moi dans les locaux.
Hey, dans la salle d'à côté, mec.
Exactement. Heureusement, parce que je ne t'entends pas comme ça. Ça fait pas d'écho.
Ouais, non, heureusement, moi, je ne t'entends pas.
Exact. Plume, lui, il est en enfer.
Ouais, comme toujours.
Plume en... avec son cosplay de Ghost of Tsushima.
Exactement.
Il a un katana derrière, il va tous nous tuer.
Ouais, exactement. C'est tout à fait moi. Voilà. Donc, moi, je suis toujours dans mon KGB chez moi. Comme d'habitude. Ouais.
Putain, d'ailleurs, ça résonne bizarrement, non? T'es sûr que t'as pas tué des gens?
Non, jamais je fais ça. Moi.
D'accord, ok. Eh bien, voilà, c'est le podcast de 545, mes amis. Et puis, il va falloir parler de tout ce qui s'est passé durant cette semaine.
Ah, vas-y, hein.
Et là, ça va être chaud, je vous le dis. Parce que le podcast doit durer 22 minutes.
Quand l'épisode des Simpsons?
Exactement. Il y aura bien sûr le win, le fail. On va beaucoup parler de la PS5, évidemment, ce qu'on en a pensé au niveau du lancement, etc. Tout ce qui s'est passé depuis, avec quelques bugs, quelques vols, n'est-ce pas? On a relayé certaines vidéos assez comico-tragiques. Et puis, bien sûr, le thème numéro 2, ça sera les tests de la semaine avec pas mal de petites choses dont on vous parle à la fin. Mais tout de suite, on va vous parler du win et du fail. Et on commence avec le win par Thomas. Ça va être quoi, Thomas?
Eh ouais.
Tu peux nous expliquer tout ça?
Eh ben, c'est un lancement d'un jeu dont on vous a récemment parlé, puisque Assassin's Creed Valhalla, eh bien, on signe le meilleur lancement de la série pour Ubisoft. Le jeu avait commencé par détrôner Call of Duty lors de sa première semaine de commercialisation en Grande-Bretagne. C'était hissé à la première place des ventes physiques, évidemment, on précise, hein, en période de pandémie, ça a son importance. Et du coup, Ubisoft s'est assez légitimement félicité d'avoir lancé un jeu qui pulvérise tous les records de la série. Ça a commencé quand même en 2007, donc c'est plutôt chouette. Alors, il faut dire évidemment que le parc de consoles installées n'a a priori rien à voir avec les lancements précédents, d'autant plus que, vous le savez, le jeu est carrément cross-générationnel, il est jouable sur à peu près tous les supports, mais il n'empêche, c'est... même si on n'a pas forcément eu le chiffre exact du lancement, le jeu est aussi bien le meilleur lancement d'un jeu Ubisoft sur PC. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu de tous les records. Et donc, à défaut d'avoir quelques chiffres de vente ou de téléchargement, on a eu quelques stats compilées des exploits des joueurs en jeu, parce qu'on sait que vous êtes quand même assez nombreux déjà à vous être lancés dans l'aventure, à commencer par Poufy d'ailleurs, qui l'a terminé avant moi. Et au moment où Ubisoft communiquait, les joueurs avaient parcouru 4 millions de kilomètres à pied ou à cheval, et surtout avaient joué 3,5 millions de parties d'Orlog, le jeu de dés propre à l'univers de Valhalla, qui d'ailleurs sortira l'année prochaine dans une version physique, en plateau, pour vous la donner avec vos amis quand tout ça sera terminé. Voilà, donc bravo pour le coup Ubisoft qui signe là un lancement record.
Très classe.
Parfait. Mais merci. Bah, écoute, pour avoir les chiffres exacts, on attendra encore un petit peu. J'imagine qu'ils vont communiquer d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine.
Quand ils auront passé le premier million.
Voilà, s'ils continuent d'être bons, ils communiqueront. Si ça se casse la figure, ouais, là, ils diront rien.
Ils communiqueront le chiffre d'affaires, à tous les coups.
On verra. Et si on parlait du fail tout de suite, parce qu'après le win, vient le fail, bien évidemment. Et
ok.
Là, je laisse la parole à un certain Plume.
Ouais, alors le fail de la semaine, on va dire que c'est assez personnel. Ça peut être la non ouverture des coiffeurs pour l'instant. Non, ça concerne Tomb Raider, puisque vous le savez, je crois tous qui est avec nous, l'année prochaine, Lara Croft aura officiellement 25 ans. C'est quand même pas mal pour cette star du jeu vidéo qui a quand même eu un impact culturel assez phénoménal. Hein.
C'est pas faux.
On va pas rappeler tout ce par quoi elle est passée, notamment la couve de Libération. C'était le premier personnage de jeu vidéo à être sur en couve de Libération en 96 ou 97, si je me souviens bien, qui avait fait des tournées avec Bono et U2, des pubs de tous les côtés. Seat. Bref, c'est pour Seat, exactement. Vraiment une icône du jeu vidéo qui a pris sa retraite, on va dire, enfin en tout cas des vacances forcées en 2018 après la fin de la trilogie rebootée. Et là, pour les 25 ans, pour l'instant, Square Enix, ils nous ont pas préparé grand-chose, sauf que ils viennent d'annoncer un nouveau jeu, un jeu qui va être un jeu mobile. Et je vous le donne en mille, ça s'appelle Tomb Raider Reloaded.
Exact.
Et c'est un jeu donc mobile, iOS, Android, qui est fait par un studio canadien spécialisé dans le genre. Ça va être un free-to-play, un jeu d'action free-to-play. Déjà, ça fait un peu peur. Et quand on voit le trailer que j'imagine Poufy est en train de montrer aux personnes qui regardent la vidéo de ce podcast, on voit qu'ils se sont amusés à la redesigner en version, vous voyez, un petit peu Clash Royale, un petit peu Knack, c'est-à-dire un personnage mini.
La pire comparaison.
Ouais,
redesigné à la Knack.
Tu regardes les persos de Knack, c'est des persos un peu rétrécis, qui ont des traits un petit peu cartoon. Et bon, je vous cache pas que personnellement, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais Lara Croft. Alors pourtant, elle est déjà passée sur mobile et ça s'est bien passé. Je pense pas au jeu de running, mais je pense plutôt à Lara Croft Go, qui avait eu un design, lui, un peu plus épuré et qui avait un principe de jeu qui était vraiment excellent. Qui était tiré de Hitman Go, où c'était du déplacement case par case. Donc là, en attendant que Square Enix nous dise « Ah bah oui, mais on a autre chose sous la main », pour l'instant, on peut considérer ça comme un fail, parce que vraiment, fêter les 25 ans de Lara Croft et de Tomb Raider de cette façon, on pouvait penser à mieux quand même.
Mais en termes d'impact culturel, finalement, Lara Croft et Tomb Raider ont connu leur apogée assez tôt dans ces 25 ans, parce que aussi populaires soient les jeux sortis ces dernières années, on n'a jamais retrouvé le phénomène de société qu'on a pu connaître à la fin des années 90, par exemple.
Non, mais elle est entrée dans la pop culture, elle est restée, quoi.
Ouais.
Et tu vois, t'as toujours des gens qui se déguisent en Lara Croft quand c'est des soirées déguisées ou ce genre de truc. T'as toujours.
Il y a eu des films aussi. Hein,
ouais, voilà, il y a eu des films.
Il y a longtemps
des films. Il y a eu plein de jeux.
Non, là, celui avec Alicia Vikander,
je m'en souvenais même plus. C'est ouais. QFD.
Donc ouais, c'est triste. RT, c'est triste,
mais au moins, voilà, il se rappelle à notre bon souvenir, 25 ans de Lara Croft. Et on verra bien. Il sort quand ce jeu sur iOS, d'ailleurs, 2021, c'est ça?
2021, ouais, pour les 25 ans.
Pour les 25 ans. Il n'y a pas de date précise, hein. Non, c'est juste.
Non.
Ok. Non. Écoute, on suivra ça de près quand même, au cas où, on ne sait jamais.
Je te laisse faire, pas de problème.
C'est vrai.
Ouais.
Tu verras à Romain de faire un test.
Ok. Voilà.
Et si tout de suite, après ce win et ce fail, on parlait, par exemple, je sais pas, d'un certain lancement d'une certaine console. Et oui, nous allons parler de la PS5, évidemment. Putain, chez moi, tout le monde a frisé, là. Je sais pas pourquoi. Ah non, vous bougez de temps en temps comme des marionnettes, mais ça va.
C'est ton AVC qui est en train de...
Exactement, c'est le tien, plutôt.
Possiblement bien fait.
Déjà, t'es roux, alors déjà, ça craint. Le pourcentage est plus élevé. Mmh. Et donc, oui, nous allons parler de la PS5. Son lancement le 19 novembre dernier... Et ça a pu être servi, n'est-ce pas Moi le premier, mais ça c'est normal. Je l'achèterai en 2021 comme toutes les consoles en fait.
Tu achèteras toutes les consoles en 2021.
Exactement.
Okay. Depuis la première.
Non, j'ai pas fini la première phrase. Comme toutes les consoles qui viennent de sortir. J'achète jamais Day One, moi, parce que je sais très bien
qu'il
y a tellement de bugs et de soucis et de machins. Bon, pas sur toutes, évidemment, parce que c'est un produit de grande, entre guillemets, de grande consommation. Électronique, donc qui dit électronique dit forcément quelques failles de ci de là. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce lancement? Est-ce qu'il vous a paru impeccable au niveau marketing, niveau technico-commercial, niveau sortie, etc.
Si je puis me permettre.
Qui essaie de m'appeler et qui me saoule, là, il faut qu'ils arrêtent.
Ok, pas de problème, Traz.
Voilà. Donc voilà, qui veut.
Tu le raccroches à la tronche et puis c'est bon. Si je puis me permettre, je trouve qu'il y a une sacrée différence entre l'ambiance que Sony essaye d'instaurer depuis des semaines. Sur les réseaux, dans sa communication générale ou grâce à ses amis influenceurs et la réalité du terrain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les consommateurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis septembre et les premières précommandes, c'est une espèce de foire puisque personne n'arrive à se la procurer. que Sony tente, enfin, Sony communique beaucoup, a quand même fait des événements aussi pour essayer de célébrer la chose. Alors, on a eu une station de métro à Londres qui a été redécorée, des noms de stations qui ont été refaits. À Paris, on a eu droit à un truc à Opéra. Bon, bah, nous, on l'a appris le lendemain, donc c'était vachement, ça valait vachement la peine d'essayer de le voir. Bref, avec cette ambiance, malgré l'ambiance...
On
n'a
pas le droit de sortir de chez nous, de toute façon.
Bah oui, voilà.
Vous n'allez pas dans les bons quartiers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bah, c'est à 1 km de la rédac, hein. On aurait pu y aller. Hein.
Bah oui, on a plein de trucs à bouffer.
Ou peut-être plus, remarque. Mais bref, il y a une espèce d'envie de dire oui, non, mais c'est la fête du côté de chez Sony. Et quand on voit les consommateurs qui, eux, n'arrivent pas à avoir de console, et ça, on va en parler juste après, et qui répondent après sur les réseaux sociaux mais si, il y a des limites, hein, vous dites Play has no limit, mais il y a des limites de stock, etc. C'est toujours très marrant, surtout après, ça part vraiment dans des insultes et tout. Bon, c'est peut-être pas obligatoire non plus.
Des insultes sur Internet?
Ouais. Ça peut arriver.
Ça, je crois pas.
Non, mais à chaque fois que je le vois, de toute façon, je clique, je signale. Je vais sur Pharos et je dis arrêtez, c'est pas bien. Arrêtez.
Après, pour leur défense, 2020, c'est quand même une année assez compliquée. On sait que chez Sony, comme chez d'autres constructeurs, il y a eu des difficultés à se procurer certains matériaux essentiels. Évidemment. À la fabrication, caler, valider l'architecture d'une machine qui sort d'usine quand on ne peut pas voyager ou se rendre sur place ou discuter de vive voix avec les gens qui s'en occupent, c'est forcément compliqué aussi. Donc, on imagine bien que si la console s'était lancée dans une année tout à fait normale, imaginons à la fin 2019, ce serait sans doute en tout cas passé un petit peu différemment et surtout sans doute un peu mieux pour les joueurs comme pour les distributeurs, parce qu'eux aussi, mine de rien, ils sont pas mal embêtés, puisqu'il y a beaucoup de communication directe avec les clients à gérer du fait de stock quand même assez rare.
Moi, tu vois, je trouve que, curieusement, ils s'en sortent plutôt bien. Je m'explique. Parce qu'ils ont réussi à événementialiser le lancement de leur machine. Malgré un contexte qui n'est pas du tout propice à ça. Les projections lumineuses sur le temple à Tokyo, l'animation vidéo sur leur locaux en Californie, ce qui s'est passé à Opéra, ce qui s'est passé à Londres, etc. Les gens, globalement, enfin, dans certains pays, n'ont pas vraiment le droit d'aller dans la rue. Tu ne peux pas faire d'événements en magasin. Tu as des pénuries de stock. Mais malgré tout, la console est omniprésente. Il y a énormément de pubs à la télé. J'ai l'impression. Beaucoup
moi, j'ai pas,
plus.
J'ai pas vu grand-chose,
moi. Non, ouais, mais j'ai pas tout le temps.
Je regarde pas assez. Moi, j'ai vu zéro pub pour l'instant.
J'en ai vu une ou deux fois, mais c'est tout.
Même ma femme m'en a parlé. Tu vois, Madia, j'ai vu plusieurs pubs pour la PS5. J'ai pas l'impression que pour la Xbox Series X et S, il y en ait autant que ça. Il y a plein de trucs qui se font. Et en plus de ça, ce qui bénéficie à Sony, mais c'est un peu à double tranchant, il y a beaucoup de hype. Après, nous, on vit dans un pays qui est très, très côté Sony en termes de consommation de consoles. Il y a plus de fans, il ne faut pas se leurrer, il y a plus de fans de PlayStation que de fans de Xbox. Donc évidemment, dans les discussions, etc., ça ressort plus. Mais j'ai l'impression que malgré des confinements, des mesures de distanciation sociale, des magasins fermés dans les différents pays, etc., ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Après, il y a évidemment des pénuries de stock de consoles, mais ça... C'était d'une manière générale assez prévisible. Je pense qu'on aurait été dans la même situation, même si les boutiques avaient été ouvertes, etc., etc. Et dans les faits, Sony a déclaré, ça il y a plusieurs mois de ça, qu'ils veulent, d'ici au 31 mars prochain, distribuer encore plus de PS5 qu'ils n'avaient distribué de PS4 à son époque. La PS4 qui avait déjà fait un lancement très réussi, avec beaucoup de demandes, etc., et qui, en termes de consoles, de nombre de consoles mises sur le marché, était le record historique pour PlayStation.
C'est donc, quoi, 6, 7 millions, c'est ça ?
C'est assez conséquent.
Ah, ouais.
Donc, ça ne serait pas tant que Sony a du mal à produire des consoles, c'est juste qu'ils en produisent pas autant que la demande est forte. Donc il y a peut-être en fait encore plus de demandes pour la PS5 qu'il y en avait eu pour la PS4. Et on voit bien sur je parle uniquement du cas français, sur les différents revendeurs. Si vous suivez des comptes comme Hamsterjoueur ou Chocobonplan ou choses comme ça sur Twitter, vous voyez qu'en fait, il y a des stocks qui sont remis quasiment quotidiennement sur différents revendeurs et elles partent quasiment immédiatement qu'en quelques secondes. Et quand tu vois que des revendeurs grand public, enfin généralistes comme Leclerc, Auchan, Carrefour, tout ça, ont plié genre des sites de ces grandes enseignes françaises ont carrément saturé à cause des gens qui voulaient acheter une PS5, ça montre qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
C'est même plus fort que ça. On peut parler du 19, hein, le jour de lancement, où on est quelques-uns ici à avoir essayé à un moment ou à un autre de vouloir se procurer la console parce qu'on se disait c'est le jour de lancement. Donc forcément, les enseignes disent « Tiens, on va commencer à en vendre quelques-unes ». Enfin, on va en revendre quelques-unes après la foire qui a été la période de précommande. C'est effectivement, Romain, à partir de 8h du matin, c'est impossible d'aller sur Boulanger. Il y a des files d'attente. La Fnac, ils te font jouer à Tetris, un espèce de mini Tetris, en attendant que tu puisses accéder au site. Il y a quoi ? Il y a Auchan qui, à un moment, alors j'avais à peu près toutes les fenêtres ouvertes. Hein. Auchan, plus de 60 000 personnes dans une file d'attente et des sites comme Carrefour aussi qui crachent complètement quoi. C'est-à-dire qui te redirigent, qui disent attendez, ça c'est le lien pour aller directement sur les rayons généralistes parce que là high tech, jeux vidéo, faut même pas y penser. Et le pire, c'est Amazon, vers 13-14 heures, le moment où Chocobonplan ou Hamsterjoueur et d'autres disent « Ah ben voilà, ça va être l'heure où eux, ils auront des stocks. » Amazon qui plie, Amazon qui est à genoux complètement au moment où les précommandes s'ouvrent. Amazon qui est quand même un géant, qui est censé avoir des infrastructures qui doivent largement dépasser celles de nos supermarchés français et de loin, qui quand même s'est retrouvé complètement en rade. Je parle pas juste de je mets dans le panier et une erreur est survenue. On parle de carrément un arrêt technique de quelques minutes pour Amazon.
Oui, mais une fois de plus, année particulière, puisque mine de rien, les gens qui télétravaillent ou qui sont mis au chômage technique ou ce genre de trucs sont chez eux. Du coup, sont potentiellement devant leur PC, ce qui ne serait peut-être pas arrivé justement une autre année où on vaque plus naturellement à ses occupations. Tu vois, je pense qu'il y a eu aussi, plus de l'hype, de la communication qui a porté ses fruits,
Amazon,
que les gens, d'une part, ont besoin de, entre guillemets, tuer le temps ou faire rentrer du loisir chez eux, et en plus sont disposés à justement faire F5 comme vous avez pu le faire.
Amazon, excuse-moi, mais ils ont des Black Friday, ils ont connu des Black Friday, ils ont mis en place des offres, des ventes flash sur des trucs de cinglés à des horaires qui étaient encore plus adéquats que ceux-là. C'est quand même, ça montre quand même que la PS5 a a un poids qui est assez monstrueux.
De toute façon, un signe assez fort, j'ai trouvé, c'est Leclerc, je crois, ou Cultura, mais je crois que Cultura, c'est lié à Leclerc. Ils ont carrément fait une page d'erreur consacrée à la PS5. Genre, quand tu essayais de te connecter sur leur site, il y avait marqué on n'a plus de PS5. C'était une page spéciale, on n'a plus de PS5, le site est indisponible, etc. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que, en fait, là, ce qui a été mis le 19 sur les sites internet, c'était des consoles qui auraient dû être à part sur des sites, des revendeurs exclusivement en ligne, mais sur Leclerc, Carrefour, tout ça, Auchan, c'était des consoles qui auraient dû être en magasin le jour J. Donc, en plus des gens qui comptaient essayer de l'acheter sur Internet, il y avait, comme le dit Thomas, tous les gens qui auraient peut-être été soit qui ne l'auraient pas acheté, soit qui auraient été en magasin directement pour essayer d'en avoir une le jour J. Donc, ça a provoqué un contexte un petit peu exceptionnel. Mais mine de rien, la demande est là. J'ai vu qu'en Angleterre, sur certains sites de vente en ligne, il y avait des files d'attente de 200 000 personnes. Te rends compte de 200 000 personnes qui essayaient d'accéder au site à un instant T.
Donc ça veut dire que potentiellement, ils peuvent en vendre des centaines de milliers
si,
en quelques semaines si la production suit derrière et si
si les choses continuent telles qu'elles sont actuellement, leur objectif pour l'année fiscale, ils vont certainement réussir à l'atteindre sans problème. D'ailleurs, on se souvient aussi que Sony avait expliqué, je sais que c'était pour les États-Unis, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres pays, mais les consoles, ils les amenaient carrément en avion. Alors que d'habitude, les consoles, elles sont transportées par paquebot.
Par bateau.
Hein. C'est plus long. Et là, pour garantir des arrivées plus rapides de stock chez les revendeurs, ils les affrètent par avion. C'est inédit, ça coûte plus cher pour Sony, mais ça prouve bien quand même une conscience d'une demande qui est considérable.
D'autant plus considérable que, excuse-moi, que comme il y a le confinement un peu partout, les gens n'ont pas dépensé leur argent pour partir en vacances.
Puis ça fait 7 ans.
Produits, etc.
Ouais.
Et ça fait 7 ans pour la nouvelle génération.
Comme là, Noël approche, les cadeaux, c'est maintenant, donc du coup, tout le monde veut.
C'est ce que je me demandais justement, c'est est-ce que les ventes vont continuer en 2021 ?
Alors, je sais pas.
Passer la période des fêtes.
Je sais pas, mais mis à part le fait qu'on est confiné et que les boutiques sont fermées, il faut aussi garder à l'esprit que là, le contexte en cette fin d'année, pour Sony et pour les constructeurs de consoles d'une manière générale, mais pour Sony en particulier, il est extrêmement favorable. Parce qu'on sait que quand la PS4 est sortie, les gens en avaient marre de la génération PS3, par exemple. Mmh. Ils avaient envie de passer à la next-gen. Là, c'est encore le cas. Donc déjà, vous avez ça. De l'autre côté, comme le dit Traz, il y a des gens qui sont chez eux depuis quand même un certain nombre de mois, donc on fait moins de dépenses, donc on a plus d'argent à dépenser. Donc il y a ça. En plus, il y a le fait que le jeu vidéo est devenu un passe-temps super commun pendant ces périodes de confinement et de distanciation sociale, etc. Donc il y a tout ces... Et en plus de ça, il y a la hype et il y a aussi le phénomène... Alors je ne sais pas si on a un équivalent en français qui dit de la peur d'être exclu. Vous savez, en fait, quand tu vois tous les gens...
La pression sociale, oui.
Tu vois, tous les gens...
La pression sociale, c'est pour ça
que les gens qui sur Twitter sont là, hypés par la
pression. Il n'en veut pas.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il n'en veut pas.
Et t'as tous les gens qui disent sur Twitter, ah ouais, j'ai réussi à commander ma PS5, je joue à tel jeu, la manette, elle est ouf, Astrobot, c'est trop chouette, etc. Dark Souls, c'est incroyable, ou Demon's Souls, c'est incroyable. Il y a cette sensation d'envie de participer au truc et de ne pas être mis à l'écart.
Et donc, ça a pris une ampleur assez ouf, je trouve, parce que ce que tu décris, il y a un truc qui m'a sauté, enfin, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je ne sais plus si c'est Cultura ou Leclerc qui a fait partir la veille du lancement des consoles qui sont donc arrivées chez des joueurs, chez des clients qui l'avaient précommandé, avec un message qui disait, grosso modo, on a un peu loupé le coche, vous auriez dû la recevoir demain. S'il vous plaît, ne la branchez pas, ne la connectez pas avant minuit et ne faites pas de post sur les réseaux sociaux. Et si vous acceptez ce deal, on vous fera un bon d'achat de 50 euros en expliquant que c'était un préjudice de ne pas pouvoir poster le fait que tu aies eu ta console. Et là, je me suis dit, mais quel monde de merde, puissance 10 000, le jour où un revendeur te dit texto que le fait de ne pas poster un truc pour dire « moi je l'ai », c'est quelque chose de préjudiciable. J'ai trouvé ça mais complètement dingue.
C'est un NDA rémunéré. Mais c'est pas
tant... 50 balles par tête de pipe.
Mais c'est pas tant, en fait, c'est pas tant, je pense, le fait d'empêcher les gens de poster sur les réseaux sociaux, c'est plus de les empêcher de l'utiliser. Parce que c'est vrai qu'à l'échelle de la population française, les réseaux sociaux, c'est encore loin d'être utilisé par tout le monde. Mais moi, je reçois ma console en avance. On me dit, ouais, tu l'as reçu en avance, mais tu ne peux pas l'utiliser avant demain. Connaissant mon impatience, ça me saoulerait, tu vois. Par contre, on me dit, ouais, on te demande de pas l'utiliser jusqu'à demain, mais on te file un bon d'achat de 50 euros qui peut être utilisé pour acheter une deuxième manette, par exemple, ou un jeu, etc. Là, ça fait réfléchir. 24 heures, ça reste que 24 heures. Je pense donc pas tant que c'est les réseaux sociaux, c'est juste t'empêcher de l'utiliser, quoi.
Et tu parlais des jeux, justement, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a eu des déclarations encore d'officiels de Sony il n'y a pas si longtemps pour dire que, bah, grosso modo, jusqu'à 2022, il fallait s'attendre à avoir du cross-gen pour les jeux first party et sans doute au-delà. Et c'est d'autant plus dingue que le succès de cette console est fou, quand bien même il y aurait si peu d'exclusivité, parce que tu t'enlèves Demon's Souls et Astro qui est préchargé, bah, finalement, tout est disponible ailleurs pour l'instant, mais et a priori pour les années à venir.
C'est toujours comme ça. Enfin, ça fait plusieurs générations qu'on est dans un cas de figure similaire, et ça empêche jamais les early adopters de se jeter dessus dès la sortie, parce que, et nous on en a quand même parlé à un nombre de reprises considérable, mine de rien la qualité de vie sur les nouvelles consoles par rapport à ce qu'elle était sur PS4, bah franchement, ça joue, quoi, ces histoires de temps de chargement. En plus, là, sur PS5, il y a le système d'accéder à certaines parties des jeux spécifiques, tout ça. Enfin, rien que ça, c'est agréable. Et donc, oui, alors, si tu joues qu'à Astro, bah, Astro, il exploite quand même vachement bien la DualSense, ou tu joues qu'à Miles Morales ou qu'à Demon's Souls, bah, t'as quand même des trucs. Et si à côté de ça, bah, tu veux jouer à Ghost of Tsushima, t'as le patch qui l'améliore un petit peu. Enfin, t'as quand même quelques jeux qui sont améliorés comme ça. Donc, même si tu vas continuer à jouer à des jeux PS4, bah, la qualité de vie, elle est améliorée malgré tout. Donc, je trouve que les arguments de vente sont là. Et il y en a même peut-être encore plus qu'il n'y en avait à la sortie de la PS4. Parce qu'à la PS4, oui, t'avais des jeux cross-gen, etc. Mais t'avais pas toutes ces améliorations en termes de temps de chargement, les fonctionnalités spécifiques à la manette, etc.
Oui, donc, mais tu pouvais quand même espérer d'avoir des véritables exclusivités dans les mois qui allaient suivre. Là, en gros, Sony prépare les joueurs et les esprits, comme Microsoft l'a déjà fait d'ailleurs, à se dire, voilà, vous n'aurez pas tant d'exclusivité next-gen que ça à vous mettre sous la dent.
Mais les gens s'en fichent de ça. S'il y a deux versions... et qu'il y en a une des deux qui est plus avancée technologiquement que l'autre, le fait que ça sorte à côté, à part quelques fanboys que ça va faire ricaner, les gens s'en fichent, ils vont juste se focaliser sur la nouvelle version. D'ailleurs, tu regardes les ventes de jeux britanniques, ils ont mis en vente les jeux PS5 en avance. Si tu regardes le ratio des ventes de titres PS4, PS5, ça montre quand même qu'à même si c'est cross-gen, les gens ça les dérange pas plus que ça. Et en plus, je trouve que ce revirement cross-gen de Sony, je pense qu'il a été décidé relativement tardivement. Je pense qu'il y a certains développeurs qui vont être obligés de créer des versions PS4 de jeux qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Alors après, grâce aux architectures des nouvelles consoles, c'est peut-être plus facile à faire que si on leur avait demandé de faire ça sur PS3 à l'époque, tu vois, genre vous sortez votre jeu sur PS4, mais faites-en une version PS3 aussi, 2 ans après, ça aurait peut-être été plus compliqué. Mais là, le confinement, en fait, et le Covid a tout changé. Ils se sont dit que, vu les quantités de joueurs qui sont arrivés très tardivement sur PS4 à cause du confinement, et des gens qui se sont remis peut-être à utiliser leur console laissée un peu de côté ces derniers temps, ils se sont dit, parce qu'on sait que les constructeurs font leur argent sur les jeux, les services, les DLC, etc. etc. Ils se sont dit, par les temps qui courent, mettre de côté les plus de 110 millions de joueurs PS4, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc, on va faire une transition peut-être un peu plus en douceur qu'on aurait pu le faire si le monde avait été le monde d'avant. Au revoir. C'est tout pour moi.
Voilà, c'est tout. Bon, bah, c'est génial. C'est fantastique.
Est-ce qu'on a...
Moi, j'ai du mal à vous entendre des fois et à vous voir, donc je ne sais pas trop si on m'entend encore.
Oui,
t'inquiète. Tu es toujours parmi nous.
Je regardais dans la liste des thématiques à aborder au sujet de la...
Oui, justement, c'est ça que je voulais...
La PS4, on parlait des vols, des revendeurs, etc. Il y a toujours des...
C'est toujours inhérent aux nouvelles consoles, de toute manière. Hein, ça existe depuis toujours. Moi, je me souviens déjà de l'époque... Enfin, peut-être pas Mega Drive, mais quoi.
Ah, si, Super Famicom déjà, il se faisait livrer.
Ça commençait déjà sous le manteau, etc. Donc, bon.
Il y a toujours.
Comme le monde, hein, de toute façon, c'est ce genre de truc-là.
Il y a toujours eu des trucs comme ça. Par contre, là où c'est un truc qui est assez inédit, et je me souviens pas de cas équivalents ou aussi prononcés à l'époque de la génération précédente, c'est l'omniprésence de ce genre de cas sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, on en est à un point où les mecs célèbrent le fait d'avoir volé des consoles.
Ah oui,
ils postent ouvertement sur les réseaux sociaux. Je trouve ça assez ouf.
Les gens se vendent de tout maintenant. Donc ça, a fortiori, ça arrive forcément. Quitte à montrer sa tête, à montrer sa plaque d'immatriculation.
Tout est bon pour avoir un moment de gloire.
Un moment de gloire, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Tout ça pour une petite gloriole toute pourrie tout bidon.
Ouais, les gens veulent leur
quart d'heure. Voilà comment est devenu le monde aujourd'hui. Quoi. Donc,
les gens veulent leur quart d'heure, peu importe ce que ça coûte. Mais pour tout vous dire, on partageait entre nous sur notre messagerie interne. On a partagé différentes vidéos au cours des derniers jours. Donc, il y en a une d'un camion qui se fait dépouiller, qui se fait dépouiller de ses PS5 en bas d'une barre d'immeuble, truc comme ça. Mais celui qui m'a vraiment étonné, c'est celui du livreur Amazon qui se filme à l'entrepôt. En train de chourer une PS5 et qu'ensuite qu'il se filme chez lui avec, etc. Et pire que ça, la vidéo se termine sur lui au téléphone avec son patron qui en gros le convoque certainement en vue d'un licenciement, voire plus. Et le mec, oui, il se filme visage découvert, on entend son nom, etc. Et il s'attend à quoi, le gars? C'est quoi son objectif à part faire rigoler
un mois, que ce soit que des boîtes vides. Et il a juste fait ça pour la blague, mais ça me paraît bizarre quand même.
Ouais. Bah, vu que les boîtes vides sont vendues à 100€ aussi sur Le Bon Coin et eBay, forcément. Ah bah oui, non mais tout est possible. Vraiment, tout est possible.
C'est pas étonnant parce qu'il y a des gens qui ont certainement dû chourer des consoles dans des... Mais tu sais, genre juste prendre la machine dans le truc, donc s'ils veulent recomposer l'ensemble ensuite. Mais là, tu vois, il y a eu des cas donc spécifiques à la France, mais ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que c'est peut-être le territoire qui a le plus fait parler aussi à ce sujet-là, c'est assez dingue. Les livreurs Amazon qui retirent les consoles des cartons et qui mettent d'autres produits à la place, genre des gens qui devaient recevoir leur PS5 ont ouvert leur carton, il y avait soit de la bouffe pour chat, soit des jouets, soit des appareils de massage, enfin n'importe quoi là, c'est vraiment ouf.
Ah oui, là ouais, là c'est bon, là c'est ce qui est ouf, c'est surtout que c'est drôle et que
ça me ferait pas rire.
Moi ça me ferait pas rire, ça m'arrivait, mais quand tu vois le truc, excuse-moi, mais rien que quand tu vois de la bouffe pour chat à la place du truc, quand t'es extérieur, t'es obligé de te marrer, de te dire putain, mais ils sont vraiment cons quoi.
C'est ouais. Ou les livreurs.
Avec Fretplus, on n'a jamais eu autant de consoles à livrer finalement, d'ordinaire. Enfin, toi, Plume, d'ailleurs, tu étais prêt à le faire avec un de nos chers pigistes, aller camper devant les boutiques pour faire l'ouverture en espérant en récupérer une. C'était un truc qui se faisait avant. Là, on n'a jamais eu autant de consoles à livrer Day One aux joueurs de par le monde.
Et les livreurs aussi qui viennent, qui s'arrêtent devant la maison à livrer, enfin l'appartement à livrer, qui attendent 10 secondes, qui marquent le truc comme livré et qui repartent sans être jamais descendu de la bagnole. Parce que.
Là, ça, c'est pas juste avec ces consoles. C'est
ouais.
En face de chez moi, il n'y a pas longtemps. Donc,
Oui, voilà, c'est ça en fait. Ça, le truc de genre tentative de livraison échouée, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Mais là, le problème, c'est que les gens sont chez eux. Parce que les gens sont confinés. Donc, ils savent bien qu'il n'y a pas
eu. Le pire, c'est quand tu te fais filmer. C'est déjà arrivé à mes voisins, c'était assez cocasse. Tu te fais filmer, le mec, en fait, il a le truc et il signe à ta place en fait.
Ouais.
Moi, il n'y avait personne finalement, c'est bon, c'est livré.
J'ai déjà eu un livreur qui a falsifié la signature de mon gardien.
Ah ouais, pareil que moi, mes voisins, ils ont falsifié sa signature. Je pense que le mec s'est fait virer derrière parce que c'est pas possible de faire ça. C'est illégal et c'est hyper tendu, quoi.
Ah oui, et toujours au Royaume-Uni, il y a eu d'autres cas assez cocasses. Donc vous avez la star de télé-réalité qui revend sa console offerte par Sony. Et qui s'en vante directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et aussi l'autre chose, c'est le cas de Game, alors qui n'existe plus en France, mais qui était Score Game autrefois, qui était le concurrent historique de Micromania. Mais donc Game existe toujours au Royaume-Uni, et ils sont toujours numéro un là-bas. Et eux, en fait, ils n'ont pas réussi à livrer Day One toutes les consoles qu'ils avaient. Qu'ils devaient livrer tout simplement aux gens qui les avaient réservés, et ils ont rejeté la faute sur un de leurs transporteurs en disant que la taille de la console, là on parle pas de l'ampleur des cargaisons, on parle genre de la taille du paquet, enfin de la boîte, ne leur avait pas permis d'en transporter autant que prévu, et que les capacités de livraison de ce transporteur-là n'étaient pas suffisantes pour assurer les livraisons Day One. Donc en fait, c'est un peu le Far West, là. Les gens se rejettent la faute, chacun pour soi, etc. C'est un peu inédit. Bah, après, on est dans une situation mondiale inédite, et donc ça génère pas mal de cas qu'on n'avait pas forcément vus auparavant. Et en tout cas, et mine de rien, ça contribue à donner une image de produit désirable à la... à la console, ça fait sa promotion d'une, d'une certaine manière, parce que ça fait parler. Donc,
elle d'ailleurs, est sur les lèvres. À ce sujet, encore une fois, on va revenir sur toutes les versions, enfin toutes les consoles qui sont vendues par des gens sur sur le Bon Coin ou voilà par des spéculateurs. C'est ça, ça aussi, ça aide à ce qu'on en parle évidemment pour. Je viens de voir, c'est quoi le tweet que Trace vient de partager avec nous? Si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous aimeriez le plus avoir sous le sapin, à part la PS5, un tweet de Cdiscount, voilà, parce que Cdiscount ne peut pas non plus faire des miracles. Donc ça contribue aussi à en faire parler. Et les gens qui les vendent d'ailleurs, que ce soit sur, encore une fois, Le Bon Coin ou eBay, ont compris que c'était un moyen aussi pour eux de se faire, de se créer de la popularité. Encore une fois, j'ai été voir, parce que je fais partie des gens qui potentiellement peuvent être faibles, mais j'ai réussi à l'avoir, mais potentiellement je suis quelqu'un de faible. Et donc j'ai été voir sur Le Bon Coin, et de plus en plus, dans ces annonces, c'est des gens qui disent bah, retrouvez-moi sur mon Snapchat ou sur mon Instagram, abonnez-vous, abonnez-vous et on pourra discuter du prix, livraison, etc.
Retrouvez-moi dans le sous-sol d'Auchan.
Et c'est bizarre parce que chaque fois ils ont beaucoup de photos en commun, c'est-à-dire que c'est à peu près la même photo du carton de la PS5 pris sur un carrelage blanc devant une porte blanche. Ah donc ouais. Ouais, donc c'est un peu bizarre comme façon de voir les choses.
Les gens ont le même sol.
Ouais.
J'ai découvert un truc juste avant le début de ce podcast. D'ailleurs, je vais en faire une news une fois qu'on aura terminé.
Tu vas en faire un livre même.
J'ai découvert un truc que je ne savais pas, c'est qu'apparemment les spéculateurs britanniques, alors je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais ils utilisent des logiciels conçus spécifiquement pour ça, pour au moment où des stocks arrivent sur des boutiques en ligne, pour pouvoir tous les rafler.
Et il y a spéculer là-dessus à fond.
Non, mais c'est une structure qui est assez ouf, parce que ce sont des sociétés spécialisées là-dedans. Et en fait, à la base, ils faisaient ça pour les sneakers, les chaussures. Les nouvelles pompes de Nike, etc., dès qu'elles sont mises en vente, c'est pareil, il y a une spéculation.
Après la mine, si tu le regardes.
La spéculation.
Il y a énormément de demandes de ça. Et en fait, ce sont des entreprises qui ont créé des services avec abonnement. Genre, pour une trentaine de livres sterling par mois, mais parfois des sommes beaucoup plus importantes, eh ben, tu peux t'assurer d'avoir le droit d'acheter des produits très prisés comme ça, et en fait avec leurs bots ils raflent tout. Et là, il y a un de ces groupes là une de ces sociétés qui est spécialisée là-dedans, explique qu'ils ont réussi déjà à précommander, enfin à récupérer plus de 3500 PS5. Donc en fait ils laissent les quantités comme elles sont saupoudrées un peu à droite à gauche par petit à petit. En fait ils laissent aucune chance ou très peu de chance aux gens normaux d'acheter leur console. En fait, donc il y a tout un commerce parallèle qui s'est créé à l'aide de ça, et c'est pas juste des mecs qui font que ça manuellement, c'est vraiment là des organismes avec des logiciels spécifiques créés vraiment pour aller commander immédiatement des consoles en grosse quantité. Donc là on atteint un niveau de filouterie qui est quand même assez incroyable.
Ouais. Pour ça, on a beaucoup d'ingéniosité, oui, les humains.
C'est mais il faut que les gens suivent.
Comme toi, ça, les gens vont suivre. Hein, toute
comme
façon.
Toi, Thomas, tu suis.
Ah bah non.
Tu as spéculé sur 4 consoles.
Mais non, moi, je ne l'ai pas acheté, justement.
Arrête, menteur, t'en as plein chez toi.
Ah ok, d'accord, tu m'as dit. J'en ai 3500, c'est bon.
Bon, cela dit, le côté désirable, on en revient à peu près tous, là, maintenant, depuis quelques jours. De la console.
Il y a longtemps, hein, déjà.
Parce que je parle pas du fait que. On n'est pas beaucoup de jeux finalement, et que c'est plus une console pour jouer aux jeux PS4 de manière confortable.
Mais oui, pour moi, c'est du rétro gaming, hein, la PS5 pour l'instant.
Bah, comme la PS2 à l'époque. Hein,
oui, certes.
La PS2, c'était un lecteur DVD avec du rétro gaming. Hein.
C'est pareil, tu lisses. Tournament, les gars.
Ouais, mais tu pouvais lisser au tout début, tu pouvais lisser les jeux PS1 et avoir un lecteur DVD, donc c'était cool.
C'est lecteur de effectivement, ça faisait office de lecteur DVD, et à l'époque, c'était beaucoup moins répandu que maintenant.
Exactement.
Blu-ray, tout le monde en a un, quoi.
Donc. Ah bah au Japon, la PS2, ils l'ont vendue que là-dessus.
Ils ont matrixé les gens.
Ceci dit, c'est un Blu-ray 4K. Hein. Je cracherai pas dessus, en fait.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, depuis quelques jours, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont des consoles défectueuses.
Oui, mais c'est pas le pourcentage.
J'ai parlé à de nombreuses reprises dans l'histoire de ce podcast, souvent accompagné de Careless Whisper. Sa console a duré exactement 4 heures. Il était en train de jouer et d'un seul coup, shutdown complet, odeur de brûlé. Avec son disque de Assassin's Creed dans la console. Donc pas moyen de rallumer la console, d'éjecter le disque ou quoi que ce soit. Il a appelé le service après-vente qui lui a confirmé que sa console était morte. Il a dû récupérer une marche à suivre officielle de Sony pour démonter sa console pour récupérer son disque à l'intérieur. Alors je lui ai pas reparlé depuis. Je sais pas où il en est niveau d'échange de sa console, parce que mine de rien, le service après-vente, il est aussi concerné par les limitations de stock de consoles disponibles.
Ça va être compliqué de faire des échanges en ce moment.
Je sais pas quand il va pouvoir récupérer une console, mais
s'ils ont été suffisamment prévoyants pour justement garder un petit peu d'exemplaires pour ce genre de panne. Normalement, il y a eu des tests en usine. Le constructeur est tout à fait à même d'estimer à peu près quelle sera la part de modèles défectueux dans la production qui va sortir. Donc, Microsoft le savait très bien pour la Xbox 360 au moment du lancement. Ils ont décidé de passer outre la faible fiabilité, on va dire, du modèle de lancement pour quand même, de toute façon, arriver en fin d'année et en profiter. Donc, même si Sony risque pas forcément de communiquer de manière officielle là-dessus, je pense qu'ils savent à peu près quel est le taux de consoles défectueuses. Et il faut se méfier aussi de l'effet loop, parce que les gens sont tout à fait prompts à faire part de leur énervement, de leur console qui a un petit bug ou qui redémarre de manière impromptue, ce genre de choses. Il faut voir ce que c'est-à-dire des cas quand même individuels et pas forcément si répandus que ça. C'est juste qu'il y a une capacité maintenant je ne vais pas dire de nuisance, mais de devenir une caisse de résonance pour le moindre truc qui fait qu'on a peut-être l'impression que la console n'est pas forcément fiable là où c'est peut-être un taux tout à fait normal pour une machine high-tech de ce type.
Oui, puis surtout que dans le tas, tu vois des témoignages les uns après les autres, c'est que tu as des gens qui ont mis juste les Blu-ray à l'envers aussi. Comme moi, ça aurait pu m'arriver parce que j'ai
le sens du lecteur.
J'ai très mal observé le sens du lecteur la première fois.
Et tu voulais pas nous croire d'ailleurs.
Parce que je le voyais pas. Voilà, tout simplement.
En fait, pour pas se tromper, il faut réfléchir au sens de la console quand elle est posée à plat.
Tu vois les pieds de la console en fait.
C'est ça. Si tu la mets à plat, tu sais forcément dans quel sens tu dois mettre ton disque. Mais c'est pas tant ça, mais c'est que les réseaux sociaux sont devenus un moyen de pression sur les marques maintenant pour avoir un éventuel dédommagement ou un remplacement, etc. Donc, avant, par exemple, à l'époque de la PS1, ou même de la PS2, si tu avais une console en panne au lancement, ce qui était possible, tu appelais le service après-vente et c'était le seul moyen que tu avais. Maintenant, tu as ce moyen-là, mais tu as aussi Twitter, Instagram, Facebook, etc., où tu mets des photos et des vidéos de ta console en train de déconner. Et effectivement, la caisse de résonance, elle est là. Donc, on n'a aucun moyen de savoir le pourcentage de personnes concernées par une panne par rapport au nombre global de gens qui ont leur console. Donc, ça joue forcément. Mais tu vois, là, avant le podcast, j'ai fait une news où je parle du bug du lecteur qui s'active tout seul, du lecteur de Blu-ray qui s'active tout seul et qui se met à faire du bruit à intervalles réguliers. Et bien, Dopamine, qui fait partie de ceux qui se sont achetés une PS5 rapidement, il est concerné par ce problème. Et là, en fait, les problèmes, par exemple la Xbox 360, il y avait le Red Ring, c'était un problème assez commun à tout le monde. En fait, quand tu avais une panne, c'était quasiment tout le temps cette panne-là. Mais là, sur la PS5, on voit quand même un certain nombre de bugs et de problèmes différents apparaître. Vous avez le lecteur Blu-ray qui se met à faire du bruit pour rien. Vous avez la console qui se crash alors qu'elle est mise en mode repos et donc qui coupe les parties. Vous aviez aussi les problèmes de file d'attente de téléchargement. En fait, il y a des problèmes aussi bien hardware que software. Alors, on sait que tout ce qui est software, c'est plus facile à corriger parce qu'il y a les mises à jour qui peuvent être faites assez rapidement. Mais donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y a tout un florilège de pannes potentielles qui arrivent. Mais une fois encore, les pannes au lancement d'une nouvelle machine, parce que même si Sony ou Microsoft ou Nintendo peuvent faire des tests, les tests ne sont jamais de l'ampleur d'une mise sur le marché.
D'un seul coup, il y aura toujours un petit pourcentage de toute façon de déchets.
Où tu as des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui rapidement peuvent essayer la console et lui faire faire des choses ou la mettre dans des situations auxquelles même les ingénieurs n'avaient pas forcément pensé. Donc, ça crée des situations différentes. Après, je n'ai pas l'impression que du côté de PlayStation, on a eu aussi les fausses pannes, comme les mecs qui mettaient leurs cigarettes électroniques sur la Xbox Series X pour lui faire pour donner l'impression de qu'elle génère de la fumée. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait eu d'équivalent de fausses pannes chez
laisse
chez
quelques jours aux gens, ils vont trouver des trucs.
Ne t'inquiète pas.
Ah, le pouvoir
tout est bon pour faire parler de soi.
L'inventivité en matière de nuisance de l'être humain est assez et en plus de l'être humain médiatisé via les réseaux sociaux,
humanoïde
est assez dingue.
D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Merci. Voilà.
C'est quoi ? C'est @Jin le samouraï, c'est ça ?
Ouais, ça doit être ça, ouais. Exactement.
@Musashi plume.
Ouais.
La plume.
Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, du coup.
On a fait le tour du monde, ça y est, on peut se casser. Salut les gars, et merci, et puis à la prochaine fois, quoi. C'est cool. Non, mais voilà, on a fait le tour du lancement de la PS5. Après, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez pu l'avoir, l'acheter. Est-ce que vous êtes satisfait, remboursé ou dégoûté? Et si vous en avez une en trop, envoyez-la moi, Trazom, Gameblog, et puis voilà, pas de souci.
On te follow si tu veux, hein, pour te l'envoyer. Allez sur son Snap. Alors, son Snap, je vais vous le donner tout de suite. Je vais vous mettre le code directement à l'écran, comme ça vous saurez quel QR code pour follow Traz.
Et lui envoyer vos enfants.
Et en Café Lover.
Et envoyez vos snaps, tout simplement.
Et vos dons aussi.
Ouais.
Donc vous y êtes. À la rédaction.
Hop. Bon. Écoute, voilà, je crois qu'on va passer à la suite, du coup, Traz.
J'arrive pas bien à vous voir, là. C'est pour ça que j'ai du mal à savoir si vous continuez à parler ou si vous agitez ou pas. Comme ça, vachement. Je sais que Romain, il est en train de boire un truc, là. Je sais pas ce que c'est.
De l'eau.
Mais à part ça, voilà. Voilà, donc on a fait le tour de la PS5, c'est bon. On peut passer au thème number 2, du coup. Qui est les tests de la semaine, évidemment, avec... quelques petits jeux, pas piquer des verres à soie, comme on dit, parfois. Et il y a le premier d'entre eux qui a été fait par un certain Plume.
Ouais, c'est vrai.
Il s'appelle The Passless.
Eh ouais, The Passless.
On va vite faire, hein, parce qu'il est déjà super tard.
Oui, oui, je sais, on a dépassé les 22 minutes réglementaires. The Passless, très simple, c'est un jeu Annapurna. Voilà, pas besoin d'en dire plus.
Bon, normalement, c'est dur, quoi.
Normalement, il n'y a pas besoin d'en rajouter quand c'est comme ça. Non, mais c'était un jeu qui nous a été présenté il y a quelques mois pour la première fois, qui est l'œuvre des développeurs de Abzu, donc de Giant Squid, qui était vachement intriguant par la façon dont se déplaçait le personnage dans la première vidéo qu'on voyait, qui avait l'air extrêmement fluide, extrêmement coulé, extrêmement apaisante aussi par les environnements naturels et sauvages dans lesquels évoluait le personnage principal. Donc, pour résumer, on pourrait dire que c'est un espèce de mélange de Breath of the Wild et de Shadow of the Colossus, avec évidemment un peu de Journey, parce qu'on rappelle que Giant Squid a été fondé par Matt Nava, qui est un ancien de That Game Company, et donc il a bossé sur Flower, Journey et tous ces jeux-là. Et donc, en prenant un petit peu de chacun de ces jeux, en prenant le côté exploration, découverte dans des environnements gigantesques, où on se retrouve avec des puzzles environnementaux ultra bien intégrés à chaque fois, mais qui n'ont pas évidemment, on va dire, l'envergure de ceux d'un Breath of the Wild, ni le moteur physique ou ce genre de choses. C'est vraiment des petits puzzles, mais vachement bien pensés, avec un autre personnage qui est un aigle qui va vous accompagner durant l'épreuve. On se retrouve avec quelque chose de vachement intelligent, de vachement poétique. Il y a quelques quelques soucis avec le jeu, évidemment, qui n'est pas forcément porté sur l'action, même si on se balade avec un arc et que le but, c'est de glisser, en gros, pour se balader en tirant sur des talismans qui sont éparpillés un peu partout sur l'environnement que vous traversez. C'est, on va dire, la partie « boss », entre guillemets, parce que vous avez quatre zones à explorer dans lesquelles vous allez devoir essayer de purifier des créatures gigantesques, encore une fois, qui font beaucoup penser à des boss de Zelda mélangés à du Shadow of the Colossus, parce que première partie, c'est une track durant laquelle vous allez devoir essayer d'aller le plus vite possible en profitant de ce système de déplacement dont je vous parlais. Donc, vous visez avec votre arc des talismans, vous les touchez, ça vous fait gagner un petit boost supplémentaire. Il faut essayer donc de comboter au maximum ce boost pour atteindre ces bestioles. Et c'est un peu laborieux, c'est un peu pénible. Quand vous avez une trajectoire qui n'est pas optimale ou que vous vous faites toucher, il faut recommencer et ça peut être un peu long. Heureusement, les deuxièmes parties de boss, elles sont beaucoup mieux. En général, c'est des patterns à bien apprendre et qui sont autrement plus intelligents et autrement plus joyeux à faire. Donc, il y a quelques petits défauts, vraiment, mais si vous voulez un jeu qui va vous permettre de vous évader, de vous faire ressentir un espèce de calme, une sérénité qu'on n'a pas eu beaucoup cette année, à part dans Animal Crossing, d'autant qu'il y a vraiment une ambiance qui est ultra bien travaillée et des musiques d'Austin Wintory qui sont encore une fois mais extraordinaires. Lui, est vraiment, je pense que c'est un monsieur qui mériterait d'avoir toute sa place dans d'autres médias que le jeu vidéo et de loin. Et voilà, joli cocktail pour un jeu peut-être pas parfait, mais qui a beaucoup de chances de figurer sur la liste des jeux à faire pour cette fin d'année si vous êtes du genre à vouloir un petit peu d'expérience un peu différente.
D'accord, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup.
Mais de rien.
Donc, ceux qui veulent y jouer, c'est combien ? C'est pas très cher en plus, je crois. Si
Ça, j'en sais rien, tu sais, on nous l'a offert, donc forcément, j'en ai aucune idée. Ouais.
La version boîte est pas vendue.
40 euros, fort, hein, je crois.
Elle est à 40 euros, donc la version dématérialisée. Le jeu doit être un petit peu moins cher, puis il est dispo presque partout d'ailleurs, sauf sur Switch.
Exactement. Plus tard.
D'accord. Ok. Parfait, génial, fantastique. Toi, Thomas, tu vas nous parler d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Tu as pu jouer
ouais.
sur Switch.
Ah oui. Bah, il va. On va peut-être moins.
Jamais sorti.
Ouais, on va peut-être moins recourir au superlatif pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, qui est sorti donc il y a quelques jours sur Switch. Le voici, le voilà. C'était l'une des surprises que Nintendo avait su conserver jusqu'au bout, puisque quand le jeu avait été annoncé il y a quelques mois, on en avait absolument pas entendu parler, et c'est le titre pour occuper cette fin d'année qui est finalement un Musou, comme son nom l'indique, puisque c'est la suite spirituelle du premier Hyrule Warriors qui était sorti sur Wii U. Hein, rappelez-vous cette console que vous avez loupée. Et pour le coup, ça s'entend comme une préquelle à Breath of the Wild, puisque ceux qui ont fait Breath of the Wild, a priori, vous êtes quand même assez nombreux, vu que le jeu s'est plutôt bien vendu, savent que Link se réveille 100 ans après des événements assez tragiques. Et là, c'est les événements tragiques en question que le jeu développé par Koei Tecmo va essayer de vous raconter. Donc, on est très clairement dans le pur fanservice. C'est vraiment un jeu qui se destine aux gens qui ont adoré Breath of the Wild et qui ont envie de véritablement creuser son univers et surtout de trouver des explications, puisqu'en fait, on va dire que c'est l'une des forces de l'ère du fléau, c'est qu'il s'attache à expliquer tout un tas d'éléments. Il va resituer des personnages, leur passé, leurs relations avec d'autres protagonistes de l'aventure. Il va nous permettre de découvrir aussi les prodiges qu'on avait pu découvrir que sous forme spectrale dans Breath of the Wild. Là, ce sont de véritables compagnons d'armes. Et même tout un tas d'objets, de gadgets, d'éléments de gameplay de Breath of the Wild, en fait, vont trouver leur explication dans l'ère du fléau. Donc, de ce point de vue-là, si c'est ce que vous recherchez véritablement, c'est un jeu qui fait bien le taf. Mais à côté de ça, il y a plein de petites choses qui vont pas forcément super bien. À commencer par le gameplay, puisqu'on est vraiment dans du Musou pur jus. Donc, du beat'em all où vous allez défoncer du monstre par centaines et parfois par milliers. Donc, assez peu de finesse finalement dans le gameplay, même si les éléments spécifiques de Breath of the Wild, les mécaniques, les bombes, le fait d'arrêter le temps, de charger des ennemis en énergie, en direction, etc., a été préservé. au final, appliqué en jeu, ça casse pas forcément des briques. On est sur quelque chose de très sage, de presque très scolaire, finalement, en termes de mécanique. Avec un côté, on gagne du temps, puisque en plus des missions principales, alors qui se déroulent sur la world map d'Hyrule que vous connaissez bien, puisque c'est vraiment stricto sensu la même que Breath of the Wild, mais 100 ans en arrière, donc avec des villages qui ne sont pas forcément encore en ruine, ce genre de choses. On a quand même pas mal de remplissage, finalement, pour essayer de délayer un petit peu la sauce. Vous avez en plus beaucoup de personnages qui sont jouables, alors ce qui est en soi une bonne chose, parce que vous pouvez switcher d'un coéquipier à l'autre, trouver le style de jeu qui vous convient, puisqu'on a des bourrins, on a des personnages qui gèrent la mi-distance, d'autres qui sont meilleurs à distance, etc. Sauf que bah, il faut s'occuper un petit peu d'eux, les faire monter en niveau, ce qui est possible contre des rubis pour gagner un petit peu de temps, mais il y a aussi tout un tas de petites missions qui reprennent en fait des éléments de la trame principale, mais corsetées dans quelques salles, et on a quand même l'impression de refaire encore et encore la même chose, c'est-à-dire défoncer du moblin, des linels, ce genre de trucs. Et finalement, malgré la variété de décors, on tourne assez rapidement en rond, finalement, et on se retrouve assez vite à enchaîner les niveaux, bah, juste pour avoir la suite de l'histoire, en fait, voir les événements se dérouler, retrouver des personnages. Alors, pour le coup, ça marche bien, puisque on le savait à l'annonce du jeu, Nintendo a vachement collaboré avec Koei Tecmo pour le développement de ce titre, et du coup, bah, a partagé pas mal d'assets de Breath of the Wild. Donc, on retrouve dans les cinématiques le moteur, la modélisation des personnages hyper fidèles, des personnages très lumineux, avec un jeu plein de couleurs. Mais du coup, ça devient un petit peu la carotte, en fait. D'un niveau à l'autre, on les enchaîne surtout pour ces moments de narration. Et le problème, c'est que bah, la narration, si elle a le mérite d'expliquer tout un tas de trucs, de vraiment donner dans le fanservice, bah, des fois, en termes d'écriture, c'est quand même un peu au ras des pâquerettes. On a des scènes, je citais Jean-Luc Azoulay dans le test, on a des scènes où c'est vraiment de l'écriture parfois de sitcom, avec tout le monde qui rigole bêtement à la fin pour un truc un peu débile. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est très niais, en fait, par moments. Il y a des moments un peu épiques. Et il y en a d'autres où on a plutôt envie de se facepalmer quand on voit que la scène se termine sur... Alors que, bah voilà, il ne s'est pas passé grand-chose.
Bon, juste un petit synthé de transition entre deux scènes. Tain, 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 tain.
Ça, et un freeze frame. Tu sais, le freeze frame des sitcoms, voilà, tout le monde est hilar. Bref, c'est pas forcément un mauvais jeu. Moi, je l'ai jugé satisfaisant, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez. Si vous y allez juste pour le contexte, la narration, le fait de retrouver des personnages connus ou pas tant que ça, mais en tout cas retrouver l'univers de Breath of the Wild, là-dessus, ça marche, le jeu remplit son contrat. À côté de ça, si vous attendez un jeu avec du gameplay un petit peu plus fin qu'un Musou de base, où ça va quand même pas chercher forcément très très loin, bah, là, Hyrule Warriors est un petit peu limité. Surtout qu'en plus, on sent que sur Switch, il est un peu à l'étroit. Hein. Le jeu a tendance à souffrir de quelques baisses de framerate dès qu'il y a beaucoup de monde à l'écran. Et dans un Musou, bah, il y a souvent beaucoup de monde à l'écran. Donc techniquement, c'est loin d'être un foudre de guerre. Surtout si vous y jouez en mode portable. Donc voilà, posez-vous la question de ce que vous allez chercher dans Hyrule Warriors. Il peut vous convenir ou pas vraiment, ça dépend de ce que vous projetez à l'intérieur. En tout cas, c'est le gros titre de Nintendo pour cette fin d'année, donc c'est assez étonnant finalement de voir qu'ils misent un peu tout sur un spin-off, même si y a le nom d'Hyrule dedans, ils ont bien fait évidemment attention à ne pas le brander comme un jeu de Legend of Zelda. Mais voilà, bon, j'ai l'impression, moi, après y avoir joué, qu'il fallait le sortir pour cette fin d'année parce que le calendrier manquait d'un gros titre marquant et un petit peu porteur, et qu'il aurait sans doute mérité quelques mois supplémentaires de fignolage en termes de développement pour véritablement sortir dans une forme un peu meilleure et convenir à beaucoup plus de joueurs.
Ok, ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, avis aux amateurs, hein, lisez le test de Thomas pour essayer de vous convaincre d'y jouer ou pas du tout.
Un jeu pour les fans du genre.
Exactement.
Ouais, c'est un peu ça. Bah, et vous êtes pas mal, cher lecteur, à pas l'avoir trouvé foufou non plus dans les commentaires.
Mm-hmm. Ça marche. Il nous reste un dernier jeu à voir en test cette semaine, c'est System Redux, que Plume a pu tester.
Observer System Redux. Donc, qui est une révision d'Observer, un jeu qui est sorti il y a maintenant 3 ans. C'était Philippe qui avait fait le test pour nous. On ne l'attendait pas forcément à ce moment-là. On savait juste que c'était les développeurs de Layers of Fear, donc qui s'en étaient occupés, les Polonais de Bluebird Team. À l'époque, quand on a lu le test de Philippe, on s'est dit, on a tous été intrigués parce qu'il lui mettait un 9, disait que c'était un jeu incroyable.
Alors, il ne faisait pas d'éloge, ouais.
Ah ouais, il était tout à fait élogieux par rapport à ce jeu, qui a une particularité assez importante à noter, c'est qu'il il a fait travailler Rutger Hauer. C'est un des derniers projets sur lesquels l'acteur néerlandais qu'on connaît en particulier pour son rôle dans Blade Runner, le rôle du réplicant Roy Batty. C'était un des derniers projets sur lesquels il est travaillé. Et c'était une des raisons pour lesquelles aussi on pouvait s'y intéresser. Et Philippe, d'ailleurs, soulignait à l'époque qu'il avait une interprétation qui était assez fantastique, comme tout le reste du jeu. Donc, 3 ans plus tard, Bluebird a décidé de refaire le jeu, d'avoir le jeu, mais en version next-gen, finalement. C'est un truc qui avait déjà été fait pour la série Metro, avec les Redux, qui était aussi ressorti sur PS4 et Xbox One. Là, ils ont fait la même chose, Bluebird avec Observer. Donc, une version qui profite un petit peu de tous les bienfaits des nouvelles consoles et qui, du coup, exploite un peu plus le PC aussi. Alors, c'est une révision qui est essentiellement cosmétique, évidemment. Donc, ils ont refait des modélisations, des animations, retravaillé les décors pour avoir plus de détails, plus d'éléments qui sont beaucoup, beaucoup plus, saillants pour une utilisation d'un jeu moderne, avec aussi l'utilisation du HDR et du ray tracing, évidemment. Le ray tracing qui commence à prendre beaucoup, beaucoup de place, qui permet d'avoir une réflexion, des simulations de réflexion et de lumière ambiante qui sont autrement plus réussies. Là, par exemple, si vous ne mettez pas le ray tracing, par exemple, parce que j'y ai joué sur PC, vous arrivez devant un miroir, vous n'avez absolument aucun reflet, vous n'avez même pas rien du tout, que dalle. Et si vous mettez le ray tracing, vous avez Rutger Hauer qui bouge devant le miroir avec tous les éléments derrière. Pareil pour les reflets de l'eau au sol. Tout est vraiment extrêmement bien fait. Alors, ça a un petit prix, hein, d'ailleurs, puisque le jeu n'est pas forcément extrêmement bien optimisé sur PC. Je ne sais pas ce que ça donne sur PS5 et Xbox Series X. Mais en tout cas, ça rend le jeu autrement plus joli, autrement plus immersif. Surtout, on garde l'ambiance sonore vraiment extrêmement oppressante, extrêmement puissante du jeu, avec tous ces thèmes qui sont abordés les uns après les autres dans cette enquête sur la disparition d'un fils dans un futur qui ne fait pas rêver du tout, où tous les gens restent enfermés chez eux à cause d'un étrange virus après une guerre mondiale. Ça ressemble un petit peu à notre monde, d'ailleurs. Et c'est un jeu qui a toujours autant de pertinence dans les thèmes qu'il aborde, notamment sur le transhumanisme et la réalité virtuelle, et qui donc, pour le coup, en plus, a allégé certaines parties ou aménagé certaines parties qui étaient un petit peu problématiques. On se rappelle notamment des phases de furtivité qui étaient un peu très lourdes même à vivre, avec des checkpoints qui n'étaient pas forcément idéaux. Et impossible aussi parfois de voir le poursuivant comme on le voulait. Là, ils ont fait exactement ce qu'il faut. Ils ont raccourci aussi les séquences de manière à ce que ce soit beaucoup moins pénible. Du coup, le jeu se vit beaucoup plus souplement, on va dire, beaucoup mieux, et avec toujours autant de stress et de tension, avec des missions annexes supplémentaires qui rajoutent encore des histoires en plus, et qui sont encore une fois très bien écrites, très bien pensées. Encore une fois, c'est un jeu, si vous n'avez pas le moral, je vous le déconseille. Si vous n'êtes pas trop dans les trips malsains, crades, vaut mieux éviter. Si vous cherchez, si vous êtes vraiment à la recherche d'un jeu cyberpunk, parce que là, ça manque, il reste encore 16 jours au moment où on enregistre, ça manque de cyberpunk pour l'instant, et si vous voulez de l'horreur, si vous voulez pas forcément avoir que des jumpscares, parce qu'il n'y a pas que ça, mais surtout être vraiment plongé dans une ambiance mais turbo glauque, comme disait Julo, c'est Observer System Redux vers lequel il faut se diriger, et vraiment plutôt deux fois qu'une. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire Observer, c'est le moment ou jamais.
Dac. Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, de rien. Et j'ajoute au passage, il y a un très bel, bel hommage à Rutger Hauer dans le jeu, que d'ailleurs j'ai mis sur le compte YouTube de la rédac. Voilà, allez sur le compte YouTube de Gameblog, vous verrez un hommage à Rutger Hauer qui est absolument merveilleux. Voilà.
Et il est mort ?
Il est mort en 2019, absolument.
Ouais, oui. Ah oui, d'accord. Ok, ah bah rip.
Ouais, c'est assez triste, mais c'est comme ça.
C'est la vie, pareil. C'est de la faute de Pouffy en plus.
Ouais, c'est vrai.
Eh bien, parfait, messieurs. Bon, je vous vois toujours figé, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est comme cela. On va se quitter sur ça, sur ce podcast 545 qui vient de se terminer avec perte et fracas.
Carrément.
On a fait le tour de toute l'actu de la semaine. Évidemment, il y a encore des choses à voir sur le site, hein, n'hésitez pas à y aller. Car tous les jours, il se passe des choses sur Gameblog, tous les jours.
Ouais.
Voilà, messieurs, c'est l'heure de dire au revoir, je crois. Et que,
au revoir, ouais.
C'est l'heure de manger du chocolat, non
ouais. De manger tout court. Hein.
C'est vrai
Oui, non, mais c'est l'heure de manger, ouais.
Ça sert à rien de manger, moi je vous le dis.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Traz ne mange pas forcément, en fait.
Exactement, j'ai pas le temps, des fois.
C'est la photosynthèse qui le fait tenir.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et avec toute la lumière qu'il y a à la rédac, en plus. Alors,
ouais, le plan sur Traz.
Allez, messieurs, on se quitte ici et puis on se dit à très bientôt en live dans un nouveau podcast la semaine prochaine, peut-être, si tout va bien. En attendant, jouez bien, achetez pas trop de PS5 parce que sinon vous allez casser la magie. Et puis, merci à Poufi pour la technique, merci à tous et puis à très très bientôt. Du coup, jouez bien et merci bien, portez-vous bien, mettez des masques et mangez pas trop. Ciao.